Bonjour, bienvenue sur Radio Campus Amiens 87.7 FM. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre petite bulle d'art mensuelle pour parler de Raphaël, de son vrai nom, Raffaello Sanzio. Raphaël est une des figures de la Renaissance italienne. Pour le comprendre, il faut donc tâcher de saisir l'essence de cette Renaissance. Dans un premier temps, la volonté portée par De Vinci d'en finir avec l'artiste artisan au profit de l'artiste savant, de mettre fin à l'image d'un simple travail des mains et ouvrir une nouvelle voie, celle de l'intellectuel aux mille voix. Le peintre n'est plus qu'un simple décorateur. Il devient mathématicien, inventeur et physicien, ou bien architecte, mais dans tous les cas, créateur et acteur de la science qui se fait. La création est cristallisation de la puissance de l'esprit. Dans un second temps, la Renaissance est la résurgence de la Grèce antique, la redécouverte des penseurs, des artistes et des poètes, et érigée en maître absolu. Cependant, il ne faut pas oublier le contexte religieux. Philosophie et théologie, que beaucoup opposent, se rencontrent néanmoins dans la cour pontificale de Rome. C'est dans cet univers que Raphaël a baigné dès son arrivée dans celle-ci en automne 1508. Le pape Jules II le sollicite alors pour redécorer la Stanza della Signatura, la chambre de la signature. Un espace au sein du Vatican destiné à être le lieu pour signer des décrets. On pense également qu'elle a servi de bibliothèque. Notre protagoniste, alors à l'œuvre, imagine quatre fresques, dont chacune renvoie successivement à la poésie, la théologie, la justice et enfin la philosophie. Cette chambre se fait le siège des idées de la cour. Chaque fresque discute entre elles pour retranscrire les débats d'antan. Bien qu'il serait amusant de reconstituer ces discussions, je vous propose néanmoins de se pencher sur l'école d'Athènes, renvoyant à la philosophie. Et vous le verrez, ça n'en est pas moins passionnant. La fresque qui a acquis son nom postérieurement peut être découpée horizontalement en trois parties. Dans la partie supérieure, une architecture toute en arches entrecoupée de bandes de ciel. Elle nous donne le sentiment de nous inscrire dans un temple idéal, bâtiment de réflexion et de savoir. Les deux parties restantes, qui sont séparées par un escalier, représentent les hommes les plus illustres de la Grèce antique. Au sommet de l'escalier, nous apercevons au centre, dans le foyer du tableau, Platon pointant le ciel, le monde des idées. Et à ses côtés, Aristote tendant son bras, le modérant et signifiant par la même occasion l'importance de la matérialité. Les deux grands maîtres, aux conceptions opposées, débattent. À leur gauche, Socrate fait de même avec un général, qui pourrait être Alcibiade ou Alexandre le Grand. Cet étage est donc celui de la discussion, de la confrontation des idées. Et enfin, la partie inférieure, en bas de l'escalier, se découpe en deux groupes prenant une conception différente des mathématiques. À gauche, nous avons Pythagore et ses élèves, où les maths, en tant que philosophie des nombres, permettent l'accès à la sagesse. À droite, nous retrouvons Euclide, traçant des figures au compas, entouré des astronomes Zoroastre et Ptolémée. Pour eux, les mathématiques sont pratiques et astronomiques. Au milieu des deux groupes, seuls restent Héraclite et Diogène, qui ne sont pas reliés aux autres picturalement. Tous deux, à l'image de leur comportement, sont à l'écart de la société. Le premier par antipathie et le second par philosophie. Maintenant, le tableau décrit, place à la magie. Raphaël a figé sur le mur ses maîtres antiques dans un but unique, s'inscrire dans leur continuité. Il faut certes considérer les sages d'antan, mais pour mieux les dépasser. Étudier l'histoire au passé, pour mieux écrire la nôtre. Nous, génération renaissante, sommes les fruits de ces esprits qui ont jadis fleuri. Mais comment fait-il cette démonstration? Eh bien, il prête les effigies de ses contemporains aux figures du passé pour les actualiser, leur redonner vie. Ainsi, Platon a le visage de Vinci, Héraclite celui de Michel-Ange et Euclide René avec l'architecte Bramante. Raphaël, quant à lui, apparaît humblement, figurant à l'écart, à côté de Ptolémée, Zoroastre. En conséquence, Raphaël nous place face à nos responsabilités. Nous, hommes, avons les compétences et le devoir de bâtir notre histoire. Il replace l'homme au centre, dans une conception proprement humaniste. Mais de quelle manière infléchir sur notre futur? Raphaël nous donne la réponse dans son portrait de Sainte Catherine d'Alexandrie. Toutefois, il est nécessaire avant toute chose que je vous précise la vision du monde que partageait l'artiste. Dans sa représentation de Sainte Cécile, de 1514, les anges font irruption dans le tableau sans jamais s'y confondre. La barrière est nette, marquant la fracture. Ainsi, pour lui, le monde était divisé entre deux niveaux hiérarchisés. D'un côté, le monde physique, celui des hommes, proprement matériel, et de l'autre, le monde divin, physiquement inatteignable, l'instar du monde des idées. Une fois cette précision faite, revenons au portrait de Sainte Catherine d'Alexandrie. La sainte est figurée debout, occupant le centre. Son coude est appuyé sur la roue de son martyr, en bas à droite du tableau. Son tronc est en légère torsion, lui permettant de tourner le regard vers le coin en haut à gauche. De ce dernier en sort une lumière céleste. La sainte semble être relâchée, d'abord physiquement, comme le signale son besoin de s'appuyer sur la roue, ensuite psychiquement, au vu de son visage caractéristique de la béatitude. Elle est en pleine contemplation, tournée vers la lumière céleste. La contemplation se caractérise par un relâchement total du corps et permet par là le recueillement de l'âme. Celle-ci est la condition de l'intuition, ou en d'autres termes, de la révélation créatrice. Pour Raphaël, cette révélation créatrice est d'origine divine, car elle serait un message venu de l'autre monde, du monde divin, où toutes les idées existent dans leur forme absolue, parfaite. Cependant, le souci étant que, lors du passage du monde divin au monde des hommes, cette idée se trouve en partie dénaturée, car dès lorsqu'elle parvient au monde matériel, elle n'est plus absolue, divine. En effet, chez Raphaël, le divin, porteur de la vérité, ne peut prendre forme dans le matériel. De ce fait, l'intuition serait un hiéroglyphe de la vérité révélée, pour reprendre l'expression de Gombrich. En définitive, durant le moment de sa contemplation, Sainte Catherine serait le lieu de rencontre entre les deux mondes. Cette rencontre prendrait la forme d'une idée créative qui la pousserait à transformer le monde physique. Pour terminer, ces peintures de Raphaël replacent l'homme au centre de son histoire, mais sans pour autant oublier Dieu. Il l'invite à créer afin de s'inscrire dans la lignée de ses maîtres. Ainsi, l'homme est actif dans son monde, mais trouve son idée dans le divin. Et c'est par la contemplation, d'une part qu'il peut se tourner vers Dieu, et d'autre part qu'il découvre l'intuition créatrice. Dans son art, Raphaël a cherché donc à réunir philosophie et théologie, cristallisant par la même occasion les débats de la cour pontificale au début du XVIe siècle.